André Dimbouima au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux acquis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission Parole aux auditeurs. Situation sécuritaire au sud Kivu, la ville d'Uvira est tombée entre les mains de la rébellion. Les éléments de l'AFC-M23, soutenus par les Rwandais, ont fait leur entrée dans cette ville ce mercredi matin sans combat. Selon des sources locales, des colonnes de ces rebelles étaient visibles dans les principales artères de la cité, tandis que d'autres se dirigeaient vers la frontière congolaise de Kanvivira avec le Burundi. Le gouvernement congolais alerte sur la régionalisation du conflit par les Rwandais et dénonce la violation de l'accord de Washington. Cette entrée des troupes du M23 à Uvira intervient 6 jours seulement après l'entérinement par le président congolais et rwandais de l'accord de paix entre la RDC et les Rwandais à Washington. Que pensez-vous de cette situation? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant environ 55 minutes dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs de ces jours. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Paroles aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans les groupes WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le 089 55 98 337. 089 55 98 337. Paulo Badianyama est à la mise en onde de ces magazines. Jonathan Chimanga assure les lives de cette émission et Grace Nwezolo en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, Channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui de l'occupation de la ville d'Uvira au sud Kivu par la rébellion de l'AFC-M23 depuis ce mercredi matin. Uvira est la capitale provisoire de cette province. Et pour échanger sur ce sujet, nous recevons ici au studio Willy Mishiki, il est député national élu de Walikale. Au nord Kivu, il est président du parti politique Unana, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Bonjour, honorable Willy Mishiki.
Oui, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de la Radio Capi. Bonjour, Pierre Guimaté.
Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et d'abord, dans quel état d'esprit vous vous trouvez après l'occupation depuis ce mercredi matin de la ville d'Uvira par la rébellion de l'AFC M23?
Bon, nous sommes certainement préoccupés, puisque comme vous le savez très bien, on ne s'attendait pas à ce que, après la signature de l'accord de paix, que les troupes rwandaises, notamment la force spéciale rwandaise, se viennent occuper encore une nouvelle localité et au pays, d'autant plus que l'engagement était clair. Nous venons de finir à peine l'accord de paix et nous sommes respectueux de nos engagements. Donc nous n'avons pas été surpris de constater que le Rwanda, une fois de plus, a violé ses propres engagements, mais nous prenons à témoin la communauté internationale. Mais comme vous le savez, nous n'avons pas croisé les bras. Nous n'avons pas croisé les bras puisque nous avons aussi le plan B, mais nous voudrions quand même prendre à témoin la communauté internationale pour constater la énième violation de cesser les faits par les Rwandais, de façon que demain, nous ne soyons pas condamnés. Et nous avons apprécié les soutiens que nous avons obtenus de la communauté internationale et plus particulièrement la déclaration faite par les États européens et le gouvernement américain qui d'ailleurs vient de convoquer suite à cette rupture de cessez-le-feu le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'examiner la situation de l'Est du pays et plus particulièrement l'occupation de la ville de Bukavu.
Voilà, est-ce que c'était une surprise honorable quand on voyait déjà la menace arriver avec l'avancée du M23 depuis le 2 décembre? Il y a même beaucoup d'observateurs, n'est-ce pas, qui disaient que si on y prend garde, la ville d'Uvira tomberait. Et donc, ce n'était pas une surprise, parce qu'on voyait comment ils avançaient, même en dépit du fait que la signature venait d'être signée, ça c'était les 4, mais déjà, la rébellion était en train d'avancer.
Bon, en fait, tout a commencé même bien avant la signature de l'accord. Vous avez suivi que bien avant la signature de cet accord, il y a eu reprise totalement des combats. Et comme nos FRDC sont toujours en mode de cesser les faits, en mode de repli, les autres en ont profité pour occuper de nouvelles cités, dans l'espoir que lorsqu'il y aura un cessez-le-feu, il pourrait déjà revendiquer certaines localités importantes telles que la ville de d'Ouvira, qui est une ville très stratégique à l'est, qui donne accès au lac Tanganyika. Et dès qu'on est au lac Tanganyika, on peut sortir facilement au Katanga. Et vous savez, aujourd'hui, le Katanga, c'est le poumon économique de la RDC. Vous savez, nous venons hier de voter les projets de loi de finances, et lorsque vous regardez le budget aujourd'hui, plus de 80% de notre budget est financé par le secteur minier, et plus de 90% du secteur minier vient du Grand Katanga. Donc aujourd'hui, si ils arrivaient à occuper le Katanga, Kinshasa serait asphyxié, tout le pays. Donc, et c'était ça, effectivement, leur intention. Donc, nous ne sommes pas...
Sachant tout ça, pourquoi on n'a pas pu défendre la ville d'Ouvira? Parce qu'on a appris, évidemment, il faut vérifier, on a appris que les militaires qui étaient sur le terrain, ainsi que les Azalendo, ont réclamé des renforts depuis plus d'une semaine, et ces renforts ne sont jamais arrivés.
Je dois dire, Guy Maté, personnellement, j'ai suivi la situation d'Ouvira. Je peux dire air par air, je ne dormais pas. Depuis presque 8 jours, la situation s'était déjà détériorée. Nous avons alerté évidemment les autorités compétentes. Et vous allez constater qu'il n'y a pas eu de combat à Ouvira. À Ouvira, d'abord, la ville était presque abandonnée. Et lorsqu'ils sont venus, ils sont arrivés sans qu'il y ait aucune résistance. C'est vrai, il y a eu des infiltrations, il y a eu des complicités. Et l'ennemi a joué, évidemment, avec les bombardements déjà qui étaient faits depuis vendredi, samedi, qui ont même neutralisé l'antenne de Vodacom à Kamagnola, à partir de Bougarama. Et il y a eu maintenant de jeunes gens qui ont été achetés par l'ennemi, à qui on a remis des grenades, des bombes, et quand ils arrivaient dans des cités comme Mutarule, comme Sang, comme Luvungi et Katogota, ils essayaient eux-mêmes sur place de faire éclater ces bombes-là, ces bombes lacrymogènes et même ces grenades, faisant croire que l'ennemi était déjà là. Mais l'ennemi n'était pas là, de façon qu'alors, quand les gens étaient pris par la peur, même certains de nos éléments de force et de défense, on dit et quitter certaines cités, et c'est comme ça que l'ennemi en a profité pour entrer. Donc les enquêtes seront menées, mais nous aussi, à notre niveau, nous avons voulu quand même aujourd'hui montrer en face du monde que réellement la force spéciale rwandaise est la présente. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret de Pulchinelle, et même l'ont déclaré. Et vous avez suivi même hier le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui réclame le dialogue interne. Donc vous allez y comprendre quelque chose. Et il a réclamé Olivier, lui-même a dit que non, il faut qu'il y ait un dialogue interne. Est-ce que, en quoi le dialogue interne concernerait les Rwandais alors qu'eux-mêmes sont incapables de dialoguer avec leurs frères de FDLR? Donc vous allez comprendre qu'il y a une complicité interne d'abord ici au Congo, et que comme le plan B, puisque ceux qui n'ont pas pu pouvoir obtenir militairement, ils voulaient l'obtenir par le dialogue, et comme chez nous, nous avons dit que nous n'allons pas dialoguer sans que le processus soit arrivé à sa fin pour savoir qui est congolais et qui ne l'est pas, pour que la délégation qui viendrait du groupe armé AFC MP3 ne soit composée que des Congolais. Voilà aujourd'hui, publiquement, vous avez suivi même, c'est même passé ici la radio de la paix des Nations Unies, parce que je vis là même Madame Bintou, que je salue en passant, qui était là. Donc c'est les Rwandais maintenant qui réclament les dialogues internes. Donc vous allez comprendre que c'est vraiment malheureux que les Congolais ne soient pas unis lorsque nous sommes agressés, parce qu'aujourd'hui c'est la RDF qui est agressée. Ce n'est pas Tshisekedi qui partira.
Voilà, donc vous dites qu'il y a une complicité, donc c'est parce qu'il y a une complicité qu'on n'a pas pu renforcer les éléments qui étaient prêts à se battre?
En fait, le problème était simple. D'abord, tout a commencé la semaine passée, lorsque, vous savez, quand les militaires font un certain temps au front, il faut les relever. Il y a eu d'abord une résistance au niveau de la relève. Et c'était suspect déjà, comment vous, on vient vous relever, soit c'est 7h30 et après, il y a eu même des échafaudés entre nous, et on a constaté que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait, bon, moi j'ai parlé souvent, presque tous les jours avec les VDP qui étaient à Katogoto, même ceux qui étaient infiltrés à Kamanyola, puisque c'est eux-mêmes qui m'ont filmé les images et même les missiles qui quittaient Rwanda, la province voisine du Rwanda, hein, et Bugarama, pour qui était lancé chez nous. Donc j'ai eu la prime. Et moi je me suis dit, c'est une occasion pour nous, pour que nous puissions documenter tout ça, apporter des preuves.
Qui bombardait qui? Parce que même c'est... les Rwandais aussi sont en train de nous accuser d'avoir bombardé des sites, des réfugiés et tout ça. Qui bombardait qui? Parce qu'il y a des accusations mutuelles.
Non, nous avons des preuves. Et même de bombes, on devait prendre, je ne sais pas si ceux qui sont sur terrain ont pu quand même identifier, parce que les Rwandais, même les drones utilisés par les Rwandais, ce sont des drones fabriqués en Turquie, Yakbatar, qui sont bien connus. On a eu quand même des obus qui ont raté et qu'on a pu récupérer, et la Turquie a confirmé qu'elle avait bel et bien livré ces drones-là au Rwanda.
Est-ce que nous, on n'en a pas? On n'a pas de drones? Ça, c'est la question que les gens se posent. On n'a pas de drones.
Nous avons aussi des drones. Nous avons aussi des drones. Mais comme nous avons depuis longtemps observé et fait les faits, il faut dire que c'est comme vous avez constaté que c'est la ligne de front, c'est d'abord les Oisaliens de l'VDP. Les FRDC venaient après. Et moi, j'ai vraiment regretté sur le plan stratégique. Vous savez que si Kabila avait réussi aussi à gagner la guerre contre les rebelles et les Rwandais à l'époque, c'est puisque nous avions réussi à l'époque à faire porter les uniformes, à enlever les uniformes militaires et présenter les militaires de l'époque de Kabila comme des civils, et c'est comme ça qu'ils opéraient comme des maïmaï, et on a réussi aujourd'hui à mettre des copes. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont été dans une position avantageuse, puisque lorsque nous, on observait c'est le fait, les autres nous attaquaient. Et nous étions en mode défensif. C'est ça, en fait, qui nous a pénalisés. Et le mode d'ordre était respecté qu'il ne fallait pas se battre, il fallait seulement se défendre.
Ce qui semble étonner les gens, c'est qu'on avait appris que pendant cette période d'accalmie, il y avait des efforts qui étaient faits dans le sens de renforcer les capacités des FRDC. Mais avec la chute de la ville d'Uvira, on se rend compte que rien n'a été fait dans ce sens. Hein. C'est vrai que vous avez dit ici qu'il y a un plan B. Voilà, donc.
Oui, au fait, la ville d'Ouvira, il n'y a pas eu de combat. Si on vous dit qu'il y a eu des combats, il n'y en a pas. Même à Kiliba, il n'y avait rien. Il n'y avait même
donc,
pas.
Donc rien n'a été fait pour renforcer l'armée pendant la période d'accalmie.
L'armée était renforcée. Mais c'est.
On n'a pas vu cela sur le terrain.
Oui, non. Donc sur le terrain, nous étions très bien comportés, mais seulement l'erreur peut-être que nous avons commise, non, nous avons crié au cessez-le-feu, nous avons crié à l'accord de paix. Vous savez, lorsque une puissance comme les États-Unis se porte garante du processus, nous avons crié à ça. Et je crois que
ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait face à ces rebelles. Hein. Vous connaissez très très bien les modes opératoires de ceux qui sont en face de vous. Oui. Donc, il fallait prendre des dispositions pour parer à toute éventualité, n'est-ce pas?
Tout à fait. Nous savons bien les modes opératoires de l'armée rwandaise. Ils font ce qu'on appelle talk and fight. C'est-à-dire qu'on se bat, on discute et en même temps ils se battent. D'ailleurs, pour rappel, le président Habyarimana, lorsqu'on a fait descendre son avion, il venait de signer un accord de paix avec les rebelles rwandais. Oui, accord d'Arusha. Donc, à peine arrivé, il fait exactement les mêmes scénarios qui se passent aujourd'hui. Pour dire qu'on ne peut pas faire confiance aujourd'hui à Kagame, on ne peut pas faire confiance à ce régime-là. C'est un régime sanguinaire, c'est clair. Leurs ambitions, c'est mettre la main basse sur les ressources naturelles, malgré qu'on a signé l'accord d'intégration économique avec eux. Ils ne sont pas satisfaits. Et là où ils nous reprochent surtout, ils nous reprochent d'avoir obtenu un deal qu'aucun pays africain n'a obtenu. L'éduire donc l'accord de coopération stratégique avec les États-Unis, dans ce modèle-là, en fait, qui a fait développer aujourd'hui l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et tous ces pays-là de la région du Golfe, même avec l'Égypte avait eu un accord, mais pas similaire. Puisque nous, vraiment, ce qu'on a eu, et aussi la sécurité. C'est comme ça que, or, pour signer cet accord de coopération stratégique, il y avait un préalable. Il fallait d'abord signer l'accord de paix. Vous avez vu que le chef de l'État a montré en face du monde qu'il n'était pas un vent en guerre et que c'était un président qui privilégier la solution politique. C'est pour ça même que nous avons eu l'appui diplomatique à ce stade des États-Unis en particulier et des groupes européens qui ont condamné vivement le Rwanda. Les États-Unis, par son initiative, a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Nous attendons. Et aujourd'hui, puisque la communauté internationale vient aujourd'hui de constater que le Rwanda a violé l'accord de paix et que le Rwanda a violé les statuts des faits, personne aujourd'hui ne nous reprocherait si nous, demain, nous nous vengeons. Puisque aujourd'hui, nous devons comprendre que la guerre ne doit pas être suivie. Nous devons aussi nous faire la guerre au Rwanda. Désormais, la guerre doit se faire au Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays. Lorsque nous sommes à la frontière, c'est 2 heures, 3 heures après, nous sommes dans la capitale. Nous aussi, nous devons aller là-bas.
Voilà.
Nous devons apporter la guerre au Rwanda.
Oui, mais maintenant que la ville d'Uvira est tombée, qu'est-ce qui va se passer avec les négociations de Doha? Vous ne pensez pas que les rebelles vont en profiter pour faire monter les enchères?
Bon, en principe, moi je crois que Doha est mort. Doha appartient au passé maintenant, puisque dans l'accord cadre, il était entendu qu'il fallait observer le cessez-le-feu. Et du moment où une partie déjà brise, c'est le fait. Donc aujourd'hui, il faut dire que Doha appartient au passé. Maintenant, au moins nous, ce qu'on a obtenu, puisque même pour que l'émir de Qatar vienne ici, il a signé 7 accords de coopération importants avec nous. Et il fallait que d'abord Doha aboutisse. Donc nous, on a eu ce qu'on a eu. Vous savez qu'aujourd'hui, que le Qatar, c'est le plus grand partenaire économique du Rwanda. Presque 60% de l'économie rwandaise aujourd'hui dépend du Qatar. Et sur le plan diplomatique, c'est les États-Unis. Nous avons réussi à avoir les deux piliers du Rwanda. C'est ça qui dérange en fait les Rwandais.
Pourquoi ces partenaires, pourquoi ils ne sont pas intervenus pour arrêter l'avancée de la rébellion?
Mais c'est justement maintenant, puisque vous savez, les pays comme le Qatar ne connaissent pas bien l'Afrique. Et ils ont été séduits par les modèles et rwandais. Ils ont dit les Rwandais comme toujours partout. Le génocide est devenu leur business et ils ont crié à ça. Ce n'est qu'après qu'ils se sont rendus compte que non, Kagame utilisait les fonds mis à sa disposition pour envahir, déstabiliser les pays voisins. Aujourd'hui, je vous dis que Qatar ne libère rien. La preuve, avant que le maire du Qatar arrive ici, il a commencé par Kigali. Et aucun accord de coopération n'a été signé à Kigali. Et lorsque vous regardez aujourd'hui Rwandais, c'est 60% d'actions au Qataris. Vous regardez aujourd'hui Gassari Refinery, donc la raffinerie de Gassari et de Gassabo qui a été placée sous embargo européen. Aujourd'hui, c'est l'investissement à 100% Qatari. Vous voyez comme Arena qui est vraiment un centre financier et du Rwanda, où il y a hôtel Radisson et tous les autres, c'est un investissement de 1 milliard de dollars.
Tout ça c'est bien, mais ces puissances avaient la capacité, n'est-ce pas, de demander à Kagame de ne plus avancer. Mais pourquoi cela n'a pas été fait?
Justement, maintenant, puisque Kagame vient d'humilier non seulement les médias du Qatar, mais il vient d'humilier aussi le président Bush et le gouvernement américain. Vous avez suivi au Congrès américain, notamment au comité des affaires étrangères, où ils ont réclamé des sanctions américaines contre le Rwanda. Donc les choses commencent à bouger. Il ne faut pas que les Congolais puissent paniquer. Moi, je crois que les Congolais doivent être sereins. Et moi, je crois que le président Tshisekedi, c'est un stratège diplomate aujourd'hui. Nous sommes en train même d'envisager comment faire obtenir au président Tshisekedi le prix Nobel de la paix. Puisqu'il a été toujours pacifiste et il a démontré en face du monde qu'il n'était pas pour une solution militaire, qu'il était pour une solution diplomatique et politique.
Merci, bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Okapi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs et nous parlons aujourd'hui de l'occupation de la ville d'Uvira au Sud-Kivu par la rébellion de la SM23 depuis ce mercredi matin. Uvira est la capitale provisoire de la province du Sud-Kivu et on en parle avec notre invité qui intervient ici au studio, Willy Michiki, le député national élu de Walikale au Nord-Kivu et le président du parti politique UNANA, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 089 55 98 337, 089 55 98 337.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous ouvrons notre standard où nous attendent beaucoup d'auditeurs. Et là, nous allons à Bandundouville où Pati Maïmba nous attend. Pati Maïmba, bonjour.
Bonjour cher Guy, et bonjour à tous ceux qui nous suivent, notre honorable député qui est au plateau avec vous là.
Allez-y.
Merci aussi de l'offre de la parole. Ok, nous avons écouté l'exposé de notre invité, comment il nous dresse un bilan clair dans leur côté, alors que nous, sur le terrain, nous ne voyons rien. Ce que moi, nous, on pouvait demander ici, c'est que les accords signés ou entérinés la fois passée, la semaine passée, ils s'étaient convenus comment pour qu'il y ait la paix. Parce qu'on ne voit pas là où il y avait des mécanismes, on devrait faire ceci pour que les militaires rwandais se retirent du territoire national de notre pays. Et il n'est pas été aussi signalé que non, c'était l'agression du Rwanda. Donc c'était Rwanda se défendait pour chercher ses êtres de l'air, ainsi de suite. Bon, on est perdu, on ne comprend absolument rien. Et quand nous parlons ici, Uvira est entre les mains des M23. Nous écoutons les vite nous dire l'armée était préparée, il y avait tout ça, ils se sont comportés bien sur le terrain. Bon, ils sont des stratèges, ils méritent des prix Nobel de la paix. Mais, cher invité, est-ce que vous savez que ce que vous parlez là, c'est comme si vous étiez des injuriés? Ce sont des injures. Vous injuriez, nous, le peuple congolais. Nous demanderons.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Avec lequel vous dites?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand vous dites que ce qu'il dit s'apparente à des injures.
Ils sont en train de se moquer de nous. Quand ils disent que non, leur diplomatie a réussi, donc ils méritent les prix Nobel de la paix, tout ça. Bon, ce sont des outrages. Nous leur demandons ceci, qu'ils aient seulement le même courage qu'ils ont ici, qu'ils conseillent notre cher président. Si ça ne va pas, il n'a qu'à démissionner. Le pays est en train de partir. Depuis où dans le monde vous écouterez l'armée faire ce qu'ils appellent ici les replis stratégiques. Repli stratégique chaque jour. Ils ont peur de se battre pour quoi? Ils voient quoi? Bamona kabamboa, bamona kabanyoka, bamona kabamoto, bati makanini. Les échauffourées qui y a eu entre nos FRDC et nos Wazalendo, c'était quoi? Il ne dit pas vrai, cher invité.
Merci.
Il faut dire la vérité. La vérité est de qui?
Voilà, il est là, il va vous dire la vérité. Il va vous répondre. Hein? Il va vous répondre, Patti Maïmba, on a compris l'essentiel de votre message. Nous quittons Banouville pour revenir à Kinshasa, où Maître Omar Kigalou nous attend. Maître Omar Kigalou, bonjour. Maître Omar Kigalou, vous êtes là?
Je suis là.
Beaucoup Allô. De bruit autour de vous, hein. Essayez de bouger un peu. Ou vous éloignez de ces... Il y a beaucoup Allô. De bruit autour de vous. Maître Omar. Maître Omar Kigalou.
Allô.
Oui, on vous suit, allez-y.
Maintenant, vous m'écoutez?
Oui, on vous écoute, oui.
Ah, merci beaucoup, monsieur Guima Guverbe. Je salue également l'invité, que j'apprécie. Mais vers la fin, il a voulu un peu énerver les Congolais. Monsieur Mili Michiki, nous aimons tous les présidents et nous les défendons. Mais arrêtez avec cette politique de Djalélo. Le pays tendu ne vaut pas du prix Nobel de la paix. Le président n'en a pas besoin. Il faut condamner la guerre, condamner le Rwanda et proposer des choses. S'il vous plaît. Monsieur Guimard, cette situation odieuse et désastreuse nous dérange. Elle me rappelle ce qu'on me disait toujours. En relation internationale, il n'y a pas d'amitié. Ce sont les intérêts qui priment. En droit international, ce n'est pas la diplomatie qui domine, mais les rapports de force. Si vraiment on devait en tenir compte, on ne serait pas là. Nous déplorons aujourd'hui, et je présente mes condoléances aux familles déplorées, mais moi je pense que la première cause de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le manque d'unité au niveau interne et au niveau de la région. Et au niveau de la région africaine, plusieurs accords qui permettent aux autres États africains de venir en aide à un État en détresse. On ne sait pas le respecter. On vit par hypocrisie. Même au niveau interne, il y a des compatriotes qui nous trahissent. Deuxième cause, c'est l'absence des volontés politiques des États signataires. Je l'avais dit la fois dernière, on m'a traité de pessimiste. Je dis, la majorité des conflits armés en Afrique ont pour cause l'absence des volontés politiques. Les gens signent librement, mais n'arrivent toujours pas à respecter les accords. Tel les cas de Rwanda qui viole intentionnellement l'accord qui a été signé les quatre. Il y a un autre problème qu'on néglige. C'était une erreur que le gouvernement a commise. On avait initié une démarche locale avec Luanda, avec Nairobi, et on essaie avec Doha. Qu'est-ce que nous sommes allés faire aux États-Unis? En politique étrangère, c'est démontré noir sur blanc. Lorsqu'une superpuissance fait la médiation,
il y a plusieurs conséquences négatives. D'abord, elle vous impose sa logique. Vous signez sous stress. Vous avez vu l'attitude de certains signataires. C'est-à-dire, il y a des choses qu'ils n'ont pas appréciées. Pourquoi on n'a pas peaufiné au niveau de l'Afrique, au lieu d'aller voir la superpuissance qui ne voit pas nos intérêts, nous, qui regarde le ciel. Et enfin, ces conflits ont pour cause la présence d'intérêts étrangers. Comment un petit pays comme le Rwanda peut nous déranger pendant plus beaucoup d'années? Donc il y a des intérêts étrangers, des grands lobbies qui les soutiennent. Lorsqu'on va dialoguer, il faut qu'on en tienne compte. Pour clôturer, puisqu'il y a problème, l'intellectuel ne se limite pas à ce qu'ils m'ont aussi proposé. La première proposition que moi je fais, M. Guimaté, je demande au gouvernement d'interpeller le gouvernement américain. Pour détruire l'Iran en faveur de l'Israël, les États-Unis n'ont fait que 24 heures. Et ce conflit est fini. C'est un problème de volonté. Ce sont les États-Unis qui ont fait en médiation, qui nous ont favorisé cet accord. Qu'est-ce qui leur manque de poser des sanctions sérieuses au Rwanda pour qu'ils puissent se remettre en cause? Deuxième solution, il faut arrêter de nous lamenter. Le mandat continue n'est pas un mandat de plainte ou des explications, c'est un mandat d'action. Il est temps qu'on réorganise l'armée, nos forces de sécurité. On doit arrêter. Voilà Zelensky, malgré les attaques, il va aux États-Unis, on rejette, il continue à se battre. On est État pour défendre les citoyens, pas pour se plaindre. On doit réorganiser notre armée. Troisième solution, j'ai fini par là. Lorsque le feu brûle, on peut même l'éteindre avec de l'eau sale. Il faut dialoguer d'abord au niveau interne. Et un dialogue inclusif qui réunit toutes les parties. On a connu ici 1+4. Qui pouvait croire aujourd'hui que Bemba, Roubaix, Roy et les autres pouvaient y diriger? Ils ont commis des faits graves. Mais au nom de l'unité de la cohésion, la paix est revenue. J'en appelle à la conscience du gouvernement, des parties prenantes, société civile, qu'on se mette ensemble. Car si au niveau interne, rien n'est fait, même l'apport étranger ne sera pas important.
Merci.
Voilà, à mon avis, l'état des lieux, ainsi que les propositions qui doivent être militées.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Omar Kigalou. Vous intervenez depuis la ville de Bukavu, plutôt de Kinshasa. Et là, on quitte Kinshasa pour Bukavu, c'est que vous, où Emina Mwanda nous attend. Emina Mwanda, bonjour.
Bonjour M. Guimaté, bonjour à l'invité, bonjour à l'équipe qui vous accompagne.
Vous avez la parole, Emina Mwanda.
Bon, je suis un peu désolé de la question des députés, parce que si un député national se donne le courage de dire que le président est
Tshisekedi, essayez de bouger un peu, hein, bougez un peu parce que votre ligne n'est pas claire.
Ici, ça va?
Oui, allez-y.
Bon, je suis un peu désolé de l'intervention de l'exécutif. Parce que j'attendais de l'exécutif que le député national adressait un message d'apaisement et de condoléances à la population mainstream aussi du nord-sud. Je tente de comprendre si d'entrée de prendre ce.
Votre ligne n'est pas bonne, en tout cas. On vous attend difficilement, il faut fournir beaucoup d'efforts. Essayez de bouger, ou si vous êtes dans une maison, vous sortez de la maison.
Oui, je suis déjà à l'extérieur.
Ok, allez-y.
Ici, ça va déjà?
Oui, ça va.
Bon, alors je disais ceci. L'invité est en train de nous décevoir. Il est en train de nous décevoir, d'autant plus que quand il soutient le gouvernement actuel, disant que le président Tshisekedi mérite le prix Nobel. Ça, c'est vouloir même enfoncer le couteau sur la plaie. Nous sommes en train de mourir ici aussi, petit. Et le député, parce qu'il est peut-être de Walikal, il veut prendre peut-être la position de dire que le président Tshisekedi est en train de bien faire des choses. Ce n'est pas une question de filtration. Il faut dire seulement clairement à la population congolaise que notre armée est incapable de restaurer la paix. Et la seule voie qui nous reste, c'est le dialogue. Parce que j'avais suivi dans des émissions précédentes, et nous l'avions toujours dit ici, la solution meilleure à l'agression que le Congo est en train d'être subir, c'est seulement d'abord chercher comment les hommes peuvent se mettre et se parler en face. C'est le dialogue. Les autres choses qu'on est en train de faire, aller au Qatar, aller aux États-Unis, n'apporteront rien à ce que la population d'ici qui va en train de connaître. Je suis ici à Bukavu, je vous dis, M. Kimate, la vie que la population de Bukavu est en train de mener actuellement. Parce qu'on le parle comme ça à la radio, les gens qui partagent les gâteaux avec les régimes actuels, ils veulent toujours défendre les gouvernements de Tshisekedi pour peut-être se positionner. Ce qui n'est pas, ce qui est une aberration pour un député national. Alors, il faut que les députés nous disent clairement quels sont les éléments qui le poussent à dire que le président Tshisekedi est en train de chercher la solution pour la guerre imposée au pays. Ça, c'est ma première question. Il nous donne les éclaircissements selon lui. Quelles sont les motivations qui le poussent à dire que le président Tshisekedi est soucié de rétablir la paix au Sud-Kivu? Parce que tout ce qu'il est en train de faire, les retombées, les résultats sont contraires de tout ce qu'il est en train de dire. Alors, deuxièmement, et que l'invité nous aide à dire à la population congolaise, quand est-ce que ces processus-là aboutiront? Parce que nous sommes au Qatar, nous sommes, et pourtant il est en train d'échapper à la voie qui peut amener la paix au Sud Kivu.
Merci, on a compris.
Alors, je vous dis clairement quelle est l'échéance de temps que le Congolais doit encore attendre pour aspirer à la paix.
Merci, Amina Mwanda. Vous intervenez depuis Bukavu et on reste dans la même ville de Bukavu où nous attend Amos Bissimwa. Amos Bissimwa, bonjour.
Bonjour, cher Guy Martin. Je salue les invités et les nombreux auditeurs.
Allez-y,
vraiment,
Amos
Bissimwa. Nous sommes tellement déçus des propos de l'honorable président studio et on se demande si c'est un porte-parole du président Félix au nom de ses intérêts personnels. Parce qu'on ne comprend pas tous les représentants de la population. Qui peut faire des analyses, permettez légères, et qu'on parlerait d'une moquerie par rapport à la situation que nous traversons. C'est vraiment révoltant. S'agissant de la ville d'Uvira qui est tombée, et nous continuons à le dire, cette situation prouve à suffisance que l'accord de Washington, c'était une mascarade et un non-événement pour le peuple congolais. Et nous ne pouvons rien attendre de cet accord. Nous avons dit, l'accord de Washington, c'était un deal entre le Rwanda et le gouvernement congolais. Et le M23 a fait sortir un communiqué un jour après qu'il n'était pas concerné de cet accord-là. Mais nous avons vu les gens de l'Union sacrée comme les députés présents au studio. S'exployer en accueillant le président de la République quand il est rentré comme quelqu'un qui est venu avec quelque chose de très important. Et pourtant, rien n'a été fait. Moi, je pense que c'est le moment que l'Union sacrée dit « Nous avons échoué, nous pouvons rendre l'établier. » C'est aussi être responsable jusqu'à quand on sera humilié. Repli stratégique. Et il n'a pas honte au studio de dire que l'armée était bien encadrée, bien équipée. Mais ça c'est une moquerie. Lui, tout combien d'abord?
Un
militaire coûte combien? Qu'il nous réponde à cette question.
Il va vous répondre.
Il touche combien comme député national et un militaire au fond touche combien? Le président de la République touche combien?
Ok, on a compris.
Éviter ça, ce pays nous appartient.
On a compris, Amos.
Protestant. La nation est en danger, que l'Union de Sacrée démissionne, le chef de l'État, la Constitution est claire. Comme il n'est pas à la hauteur de ses responsabilités, c'est une autre trahison. Est-ce que les députés peuvent nous dire quel est leur rôle aujourd'hui? Une caisse de résonance de la présidence, ça doit cesser.
Ok, on a compris, Amos Bissimwa. Je rappelle que vous interveniez depuis la ville de Bukavu. Honorable Willy Mushiki, vous allez réagir à cette première vague d'auditeurs. Hein. Donc, il y a Pati Maimba qui est intervenu depuis la ville de Bandundu. Il y a Maître Omar Kigalou, ici à Kinshasa. Emina Mwanda et Amos Bissimwa depuis la ville de Bukavu, Sud-Kivu.
Bon, je dois d'abord saluer Amos Bissimwa. Je comprends que là où il est à Bukavu, il ne peut pas tenir un autre langage, sinon on va les ramasser immédiatement.
Il exprime ce que la population du pauvre
est. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, les conditions dans lesquelles il est.
Et toutes les
non, les conditions dans lesquelles il est sous l'administration d'une police de répression de l'HCM 23. Il ne peut pas tenir un discours contraire, je le comprends. Mais je voudrais les rassurer. Vous savez, il faut comprendre les choses. Ce n'est pas facile, ce que nous connaissons. Les Rwandais ont préparé cette guerre depuis longtemps. Ils nous ont pris à pied levé. Et nous ne pouvons pas aller dans une guerre et dans laquelle on n'a pas été préparé. C'est comme ça que le chef de l'État a toujours privilégié la solution diplomatique. Vous savez, le chef de l'État conduit les affaires étrangères, mais il est aussi le commandant suprême de l'armée. Et il faut être responsable. Vous savez, lorsque vous ne gérez pas, d'abord, je dois d'abord dire ici d'abord que moi, je suis un député élu, je ne suis pas nommé. Je ne suis pas nommé, je n'attends rien, ni de Tshisekedi, ni de qui que ce soit. Je suis élu par la population de Walikale. J'ai eu 17 883 voix. Donc ce sont ceux-là à qui je suis...
On dit que vous vous comportez comme les porte-parole du chef de l'État.
Non, non, pas que ce chef de l'État. Moi, je donne la vraie information. Vous savez, le problème, c'est quoi? Je comprends la difficulté, les difficultés dans lesquelles nous sommes. Même nous, au Parlement, c'était très chaud hier. Lorsqu'on examinait les projets de loi de finances qu'on a adoptés hier, les députés sont agités. Mais il faut dire que nous sommes conscients des difficultés que nous traversons aujourd'hui. Si aujourd'hui nous avions l'armée s'était bâtie à Uvira, il y aurait aujourd'hui un bain de sang à Uvira. C'était ça en fait la stratégie d'abord aujourd'hui, même malgré que l'armée se soit retirée de la ville d'Uvira pour aller vers Makobola. Vous allez constater qu'il y a maintenant aujourd'hui des centaines de morts, on m'a envoyé des corps. Tout ce qui est jeune de plus de 15 à 18 ans et abattu les confondants à un Muzalendo. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Vira.
Ah, donc on assimile tous les jeunes
au Muzalendo. Malgré les retraits, alors nous on a cru que le fait que...
Mais pourquoi cela n'est pas dénoncé par oui, les ONG et la République?
Mais justement, je vous parle de la situation qui a commencé depuis hier. Les M23 AFC et puis l'armée rwandaise est entrée à Uvira hier à partir de 11h30. Donc vous aurez des rapports puisque ce sont des moi j'ai des images, c'est documenté. Donc c'est pour dire que il ne faut pas toujours, si le chef de l'État n'était pas un homme, un père de famille, il aurait ordonné aux FARDC de résister là-bas et de faire les carnages. Je vous dis qu'aujourd'hui, et c'était ça la stratégie de l'agresseur, créer la guerre, faire la guerre à Uvira, qui embraserait le pays voisin Burundi. Vous savez, Uvira, Burundi, c'est moins d'une heure du temps, à Bujumbura. Donc, ils allaient entrer jusqu'au Bujumbura. Nous, on n'a pas voulu leur donner cette occasion-là. Nous avons voulu, nous, comme nous sommes engagés, et vis-à-vis de la communauté internationale, on a voulu aujourd'hui prendre en témoin cette communauté internationale. Je voudrais aussi...
Fatih Mahimba parle de la démission du chef de l'État.
Oui, mais le chef de l'État, d'abord, il va démissionner. Pourquoi? Parce que le chef de l'État n'est pas responsable direct dans la conduite des affaires. C'est le gouvernement. Si il m'avait dit la démission de la première ministre, je dirais oui. Parce que la première ministre, conformément à notre constitution, c'est elle qui met la politique et les affaires étrangères, comme la défense, sont des domaines de collaboration entre les gouvernements et les chefs de l'État. Donc c'est le gouvernement qui devrait peut-être démissionner. Et là, maintenant, même nous, au niveau du Parlement, je vous dis qu'à l'Assemblée nationale, c'est ce que les cours, nous ne sommes pas une quête de résonance. Moi, je donne mon cas. Je me suis toujours exprimé librement et dans l'Union sacrée. Et je dois l'air dire que l'Union sacrée, c'est la famille politique de la majorité. Mais nous, à l'Union sacrée aussi, nous ne sommes pas consultés suffisamment. Puisque, en principe, je l'ai toujours dit que...
Vous n'êtes pas consulté par les gouvernements.
Normalement, les gouvernements ne devraient rien faire sans passer par l'Union sacrée. Puisque le gouvernement est l'émanation du Parlement.
Mais sans passer par les parlements.
Est l'émanation du Parlement. Ouais. Mais aujourd'hui, on donne l'impression que le Parlement serait l'émanation du gouvernement. En principe, la majorité que nous sommes, puisque nous sommes des élus, chacun de l'élu, que ce soit au niveau national comme au niveau provincial, il jouit quand même d'une certaine crédibilité, il a une base qui est derrière lui. On devrait nous consulter régulièrement pour que nous puissions donner nos avis sur certaines décisions à prendre. Et parfois, nous sommes surpris par certaines décisions qui sont prises. Le chef de l'État n'y est pour rien.
Pourquoi vous n'utilisez pas les pouvoirs que vous donne la Constitution?
Mais
c'est lui d'interpeller le gouvernement.
Justement, nous faisons... Si Vital Kamerhe, une des raisons qui ont poussé les collègues à faire déchoir les collègues Kamerhe, c'est puisque justement il était en train d'obstruer les initiatives parlementaires. Puisque c'est nous qui devons contrôler, justement c'est à travers le contrôle.
Mais au moment où je vous parle, il n'est plus là.
Oui, justement, il n'est plus là. Nous avons un nouveau président. Nous lui donnons, je vous dis, j'étais impressionné hier par le respect d'abord du règlement intérieur. En tout cas, on sent avec Boji plus de démocratie. C'était la première plénière que je voyais, parce que j'étais en déplacement, et présidé par le président Boji. Donc, nous devons dire qu'il faut laisser aux députés de jouer leur rôle. Députés et sénateurs, bien sûr. Mais nous, nous avons préséance sur les collègues sénateurs. Et comme nous sommes des élites directes, nous sommes en train d'initier. Au moment où je vous parle, il y a la commission de défense et sécurité qui a demandé officiellement au bureau d'auditionner le vice-premier ministre, ministre de la Défense et son collègue de l'Intérieur pour dire que nous sommes en train de jouer notre rôle d'élite du peuple, mais il ne faut pas toujours chercher à jouer les jeux de l'ennemi. Et lorsque nous commençons nous-mêmes à faire l'autodestruction, nous donnons l'occasion, puisque la stratégie du Rwanda, c'est quoi? C'est de nous diviser. Lorsqu'il y a des Congolais, des compatriotes congolais, qui aujourd'hui, c'est eux qui ont été des porteurs de bombes, de grenades qui ont été déposées, tuer les victimes innocentes, alors que les rebelles n'étaient même pas là. À ouvrir, moi je parlais à ouvrir, on dit, mais les rebelles n'est pas ici. Mais comment expliquer qu'il y a une tension? Donc l'ennemi a joué les jeux médiatiques, donc il a joué, il a fait la guerre numérique. De façon que tout le monde était emballé, croyant que l'ennemi
était... Nous sommes incapables de lui opposer une guerre numérique.
C'est justement ça maintenant, le rôle de nous en tant que législateurs et en tant que deuxième institution du pays qui contrôle le gouvernement. C'est à nous maintenant de demander des comptes au gouvernement.
Merci.
Mais nous ne devons pas tout dire, parce que tout ce que nous disons maintenant, Kagame l'écoute, tous ces agresseurs les écoutent, donc on ne peut pas tout dire ici. C'est pourquoi moi je demande aux Congolais que face à cette guerre, nous devons être d'abord unis comme un seul homme. Nous devons être unis autour du chef de l'État, puisque c'est lui au fait qui est au four au moulin. Il pouvait faire comme Kabila, signer des accords, parce que qui nous a amené tout ça? Mais c'est Kabila. Il a signé un accord de paix avec M23 à Nairobi, qui n'a pas respecté. Et lorsqu'il n'a pas respecté, les mêmes M23 sont revenus pour demander l'application de cet accord. Donc, aujourd'hui, le président a dit que cette guerre a trop duré. Ça fait 3 décennies que nous sommes en train toujours de tourner autour du pot. Il faut maintenant trouver une paix durable. Et c'est comme ça que moi je dis, quand j'ai dit qu'il faudrait décerner une paix, un prix Nobel de la paix à Tshisekedi, ce n'est pas de la flatterie, puisque c'est un homme pacifiste. Quand les autres l'ont eu, ce n'est pas parce qu'ils étaient devant la guerre, non. C'est parce que ce sont des gens qui privilégient la paix. Il peut aussi faire aussi la folie. Le président donnait nous avons une très bonne armée aujourd'hui aérienne. On peut aller aujourd'hui bombarder Kigali. Mais si on bombarde Kigali aujourd'hui, on va tuer peut-être des civils innocents. Innocents.
Merci.
Nous ferions la même chose que Kagame. C'est pourquoi moi je demande aux compatriotes de ne pas s'agiter. Nous devons être sereins. Ça, c'est une bataille qu'on a perdue, mais on n'a pas perdu la guerre.
Merci.
La guerre continue.
On n'a pas perdu la guerre, comme vous dites. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Capi. Vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de l'occupation de la ville d'Ouvira au sud Kivu par la rébellion de la FC-M23 depuis ce mercredi matin. Ouvira, on rappelle que c'est la capitale provisoire, n'est-ce pas, de la province du Sud Kivu. Et on en parle avec notre invité qui intervient ici au studio, Willy Mishiki, député national, élu des Walika le Nord Kivu. Il est président du parti politique UNANA, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler 089-55-98-337. Et là, nous ouvrons de nouveau notre standard. Et nous allons nous rendre où? Après Bukavu, nous allons à Goma, où nous attend Brahim Moulamba. Brahim Moulamba, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à l'invité.
Allez-y Brahim Moulamba.
Ok, merci beaucoup. De Bunagana jusqu'à Ouvira, c'est toujours le repli stratégique. Les mêmes armées, les PARDC. À l'époque de Mamadou Ndala. Pourquoi le Mamadou Ndala ne faisait pas les reprises stratégiques? Ça, c'est un. Aujourd'hui, on est en train de nous dire que Tshisekedi a gagné sur le plan diplomatique et diplomatie agitante. Mais tout ça, ça n'amène rien pour les Congolais de l'Est. Nous sommes pris d'ici, ni les accords de Washington, ni les discours des chefs de l'État, ça n'amène aucun résultat pour les Congolais. Pourquoi lorsque pourquoi 23 ils attaquent, ils gagnent le terrain? Mais pourquoi pas les FRDC ne fait pas les offensives? À Komasa, à Nyabiondo, à Pinga, à Lubero, pourquoi pas lorsque l'M23 est en train de faire les offensives à Kamanyola, à Katogota, où étaient les FRDC qui est au Nord Kivu pour aussi commencer aussi au Nord Kivu?
Voilà, donc on va vous répondre, le député William Chikela, il va vous répondre, Abraham Moulamba. On quitte Goma pour revenir à Kinshasa où Obed Boïssa nous attend. Obed Boïssa, bonjour.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs des radios.
Vous avez la parole, Obed Boïssa.
La parole accordée, Guy Maté. Je tiens à préciser que sur mon cas d'épin, j'ai en tout cas visité beaucoup de mensonges qui ont été en tout cas dit par monsieur l'invité. Le premier, c'est de revenir sur le tout dernier. J'ai l'impression que je vais un tout petit peu essayer peut-être de faire comprendre à monsieur Michi qui, quand il dit que le président de la République qui n'est pour rien, c'est le gouvernement. Mais monsieur Michi, il suffit pas pour moi d'être du danger pour vous faire comprendre ici qu'au nom du bicéphalisme gouvernemental, le président de la République est responsable. Qu'en est-il du bicéphalisme gouvernemental? Ça veut dire que le président de la République est responsable. Lorsque vous initiez des actions, pourquoi vous avez toujours l'impression de dire qu'il était sous l'impulsion du chef de l'État? Et sous le président de la République, il n'était pour rien. Pourquoi vous avez l'habitude de me dire que tout est fait sous l'impulsion du chef de l'État? Moi, je ne suis pas désolé. Je suis d'ailleurs très heureux de voir qu'aujourd'hui, vous êtes en train de nous montrer ce dont vous êtes capable. Parce que la population congolaise ne peut plus compter sur vous. Regardez un peu la qualité de l'intervention d'un député national. Je suis désolé, monsieur l'invité. Alors, Obed, pour entrer en fait dans le sujet, pour ce qui s'est passé.
Obed, c'est quand même trop fort ce que vous dites là. Il donne son point de vue, oui. Il vous dit tout ce qu'ils sont en train de faire, les efforts qu'ils sont en train de fournir, n'est-ce pas, par rapport à la situation qui prévaut dans l'Est du pays. Et vous commencez à attaquer son intervention. Non, il faut même si vous n'êtes pas d'accord, avec lui, mais respectez quand même son point de vue, n'est-ce pas? Comme on respecte les vôtres.
Je suis élégant.
Allez-y.
Je suis élégant. Je retire ce qui semble être un peu méchant ou dur.
Voilà,
allez-y. Regarde l'invité. Mais je pense que, monsieur Guy Maté, si on doit être cohérent, il faudra qu'on essaie un petit peu de calculer et mettre en adéquation ce qui est dit et ce qui est fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est clairement défini que nous ne pouvons plus rien attendre. La meilleure des choses, ce serait quand même la démission de monsieur Félix et tout ce qui est dit, parce qu'il nous a montré qu'il n'est plus capable de restaurer la paix, il n'est plus capable de tenir à ses promesses, il n'a pas une politique précise et à cette crise, et on a l'impression ici de voir un pays à pièces, puisque c'est déjà un pays à pièces, parce que rien n'est fait sur les terrains. On vient sur des plateaux de télévision, sur des radios de télévision pour maintenir la population, et c'est manquer de cette population. C'est quand même grave, monsieur Guy Maté.
Merci Obed Boïssa, on a compris l'essentiel de votre message. On quitte Kinshasa pour Likasi, dans les Haut-Katanga, où Rifin Bosho nous attend. Rifin Bosho, bonjour.
Bonjour, merci monsieur Guy Maté.
Vous avez la parole, hein. Juste une minute, c'est parce qu'on a pris le temps.
J'aimerais dire bonjour aussi à l'invité d'aujourd'hui, l'honorable qui est en train d'intervenir là-bas. Ce que j'aimerais dire, c'est une réflexion tout simplement. Les peuples, après avoir gagné les deux victoires là, contre les Cameroun en termes de football, ainsi que les Nigériens, il y avait des montants colossaux qu'on avait proposés aux joueurs. Et maintenant, ces montants-là, allait se passer même en huis clos entre les gouvernements et les joueurs. Et maintenant, comme si la guerre était en train de se pointer aussi à l'horizon. Et peut-être le fait d'avoir des communications, qu'on a donné tel montant aux joueurs, peut-être les militaires au front ils se sont dit que non, nous qui défendons, on ne nous donne pas beaucoup d'argent, nous souffrons. Et maintenant, est-ce que nous pouvons défendre peut-être c'est ce qui a créé des réflexes stratégiques, peut-être.
Ok, merci. On a compris votre réflexion, des frustrations, comme vous le dites, c'est possible aussi. Après l'Ikassi, nous allons à Kisangani de la Tchopo, où Blaise Saïdi nous attend. Ça sera les derniers intervenants. Blaise Saïdi, bonjour.
Bonjour, cher Steve.
Allez-y.
Bonjour à l'invité, oui, monsieur, qui est que oui, auditeur, auditeur de la radio Capi. Je ne serai plus long puisque mes prédécesseurs ont presque tout balayé.
Voilà, allez-y.
Mais néanmoins, je dois aller tout juste à quelques questions à l'invité Willy Michik. L'honorable Willy Michik, nous, aujourd'hui, nous sommes victimes par les Rwanda. On parle toujours que non, les Rwanda, les Rwanda, les Rwanda. Mais si l'un des joueurs est soutenu par les Rwanda, la RDC est soutenue par qui? À part les Ouattalines, puisque les Ouattalines sont des Congolais. La deuxième préoccupation, cher honorable Willy Michik, est-ce que il y a la possibilité qu'on fasse contre-attaque? Est-ce que la ville d'Ouvira doit toujours rester demeurée entre les mains des rebelles, bien des droits? Et autre préoccupation, qu'est-ce qu'il faut faire pour reconquérir les parties conquises par les rebelles?
Voilà. Merci,
honorable Willy Michik.
Merci beaucoup, Blaise. Merci beaucoup, honorable Willy Michik. Vous avez la parole. Oui. Bram Mwamba depuis Goma, Obed Boïssa depuis Kinshasa, Rifin Bosso depuis Likassi et Blaise Saïdi depuis Kisangani.
Oui, vraiment, Blaise, merci beaucoup pour votre préoccupation pertinente. Je dois vous rassurer. Sincèrement, je vous dis, vous savez, moi je suis un enfant. Je suis un enfant, je ne crains que Dieu. Je dois vous dire que Ouvira sera compté à partir d'aujourd'hui. Si vous avez, je mets même mon mandat parlementaire en jeu. Je vous donne à partir d'aujourd'hui 3 semaines au maximum. Ouvira, pas seulement Ouvira cité, mais le territoire d'Ouvira sera récupéré par les forces armées. Vous savez, ce n'est pas facile de faire une guerre. Nous avons seulement voulu, nous, d'abord, que les communautés, la communauté internationale constate que réellement, le Rwanda est un État belliqueux. C'est un État voyou. Et lorsque nous avons cet accord-là, nous n'allons plus se battre au Congo. Nous allons ramener cette guerre au Rwanda. Et je vous donne vous rendez-vous, vous me donnerez raison. On ne peut pas tout parler. Au moment où nous parlons, certains commandants, dont les commandants des opérations, sont déjà aux arrêts aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas le président Tshisekedi. Donc, il y a eu défaillance, il y a eu complicité, et il y a eu des sanctions qui ont été faites. Donc, faites confiance au chef de l'État, faites confiance à votre gouvernement, merci. Faites confiance à vos élus, vous ne serez pas déçus.
Merci.
Nous gagnerons la guerre. C'est la bataille qu'on a perdue, mais la guerre, nous allons la gagner.
On finit par ces messages. On dit merci à notre invité Willy Michik, député national, élu de Walika de Nord-Kivu. Il est président du parti politique Unana, parti membre de l'Union Sacrée. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Billy Landry Betou, qui était à la technique, Paul Bagnanyama et Jonathan Chimanga qui ont assuré le live de cette émission. Gas Mbozolo en a assuré la réalisation et la coordination sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À la présentation, Guy Maté, merci et bon suite de programme sur Radio Capi.